Radio Kapi. Mesdames et messieurs, bonjour, j'active Molima pour cette édition du journal. Voici les temps forts de l'actualité. Le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalou Kondé, s'est dit sensible au message donné par les différents acteurs de Goma où il a clôturé hier sa visite de consultation de 2 jours. Et puis 4 villages de la chefferie de Baïma Nord dans les territoires de Djougouan-Itouri se sont vidés de leurs habitants. À la base, l'occupation de ces entités lacustres par des miliciens de la Codeco depuis quelques semaines. Enfin, nous recevons dans ce journal le chancelier Thierry Mwami, pharmacien inspecteur provincial du Sud Kivu. Il reviendra sur le rôle du pharmacien congolais contre la criminalité en marge de la journée mondiale des pharmaciens célébrée ce 25 septembre. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour. Le premier ministre congolais a bouclé hier samedi sa mission officielle de 2 jours à Goma après l'étape de Bunia en Ituri. Cette mission avait pour objectif principal d'évaluer l'évolution de l'état de siège dans les 2 provinces, notamment le Nord Kivu et l'Ituri. Avant de quitter Goma, Samalou Kondé a eu des échanges tour à tour avec différents acteurs jusque tard dans la nuit. La société civile, les députés provinciaux en congé, les membres du Conseil provincial de sécurité, les humanitaires ainsi que le mouvement citoyen. La situation sécuritaire de la province en général, l'état de siège et bien d'autres questions qui préoccupent la population étaient au menu de ces échanges. Le chef du gouvernement s'est dit sensible au message donné par ces différents acteurs. Le condensé de son séjour dans ses reportages de Goma, rendu par Paul Matendo.
À Goma, tout comme à Bunia, la tournée du premier ministre congolais était l'occasion de discuter avec les forces vives et d'autres acteurs politiques. C'est en vue d'avoir leur ressenti pour mieux orienter l'action du gouvernement pour le bien-être des populations meurtries par les atrocités. Samalou Kondé s'est dit sensible à ces messages qui lui ont été délivrés.
Nous sommes déjà dans une situation sécuritaire difficile. Il faut concentrer nos forces là où nous avons véritablement ces forces négatives, cette agression que nous avons, qui est activée par le Rwanda, c'est là que nous devons mettre l'énergie. Nous, en tant qu'autorité, nous devons suivre ce que la population nous dit et travailler dans le sens de lui garantir son bien-être. C'est une population qui n'a que trop souffert et donc nous sommes très sensibles aux messages qui nous sont donnés.
Pour des questions purement sécuritaires et d'opérations militaires, le chef du gouvernement a déclaré réserver la primeur au chef de l'État afin de donner des orientations. Par ailleurs, il a instruit le gouverneur de province de commun accord avec le Conseil provincial de sécurité de voir comment lever le couvre-feu dans la ville de Goma.
Et puis, dans la poursuite de sa tournée dite de la paix à l'est du pays, Vital Kamerhe est arrivé à Butembo l'après-midi de ce samedi, aussitôt accueilli à l'aérodrome de Rwinda par une foule composée des autorités urbaines, de membres de son parti politique, l'Union pour la Nation Congolaise UNC, ainsi que d'autres sympathisants de l'Union Sacrée pour la Nation. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État s'est dirigé au rond-point VGH, où il a tenu un meeting. Il a, à cette occasion, lancé un message de compassion à la population de Butembo, victime du regain de l'insécurité et dans ses périphéries. Causé par des groupes armés qui opèrent dans la région, le président de l'UNC va échanger l'avant-midi de ce dimanche avec différentes couches de la population avant de se rendre à Beni. Sur place, il tiendra un autre meeting, indique le programme. Signalons que l'arrivée de Vital Kamerhe dans la ville de Butembo intervient après l'étape de Goma, de Lubero au Nord Kivu, ainsi que celle du Sud Kivu. Entre-temps, le caucus des jeunes communicateurs de l'Union Sacrée pour la Nation demande au gouvernement congolais d'assainir les forces armées de la République démocratique du Congo qu'ils estiment infiltrées. Dans une conférence de presse tenue ce samedi 24 septembre ici à Kinshasa, Patty Malanga, coordonnateur de ce caucus, appelle également les autorités du pays à mobiliser les ressources financières conséquentes afin d'améliorer les conditions sociales des militaires. Patty Malanga le dit à Paul Matendo.
Je demande d'abord à l'État congolais d'assainir d'abord notre armée, parce que nous avons constaté que l'armée est tellement infiltrée. Il y a des généraux, des colonels, des officiers infiltrés. Il y a aussi des généraux, des colonels de nationalité douteuse. Raison pour laquelle vous avez constaté toutes ces manœuvres frauduleuses au niveau de l'Est du pays, et particulièrement une partie de la République, l'un de nos frontières, Bunagana, est sous le maire des assaillants rebelles et terroristes qui opèrent au niveau de l'est du pays, particulièrement le M23. Mais après l'assainissement de l'armée, et nous allons encore demander à l'État congolais aussi d'améliorer la condition sociale et financière de notre armée congolaise sur le plan finance, mobiliser ces moyens-là, mettre ça à la disposition de l'armée congolaise FARDC, et je vous rassure qu'il y aura des retombées et il y aura des avancées, et pourquoi pas aussi la paix sur toute étendue de la République démocratique du Congo.
Pendant cette conférence de presse, le coordonnateur du caucus des jeunes communicateurs de l'Union sacrée pour la nation, Patty Malanga, a également demandé au gouvernement de Samalou Kondé de mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, des moyens financiers pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Autre nouvelle, le Conseil national de la jeunesse a réuni les jeunes des partis politiques, ceux de la société civile, des mouvements citoyens et des universités de Kinshasa autour de la paix et l'unité nationale samedi 24 septembre au stade municipal de Massina. Au cours de cette activité populaire, William Mukambiloa, président du CNJ, a abordé les questions liées au conflit entre Teke et Yaka, les discours du chef de l'État à l'ONU et la situation sécuritaire au pays. Il a invité les jeunes à se ranger derrière le chef de l'État pour le rétablissement de la paix au pays. On écoute William Mukambiloa au micro de Vanessa Kongolo.
Nous avons rassemblé toute la jeunesse congolaise, particulièrement celle de Kinshasa, autour de l'article 69 de la Constitution qui dit les chefs de l'État et symboles de l'unité nationale. Par cette occasion, nous avons appelé la conscience des jeunes à pouvoir s'engager dans le rétablissement d'une sécurité et d'une paix durable dans notre pays. Il fait plus de deux décennies où la RDC a été agressée et continue à être agressée. Nous alignons à côté de notre commandant suprême, le président de la République, qui a émis le fait de pouvoir, au cours de ses mandats, de pouvoir ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Et nous, la jeunesse, nous nous engageons dans cette démarche pour qu'ensemble, la paix soit rétablie, mais aussi dans l'unité.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, en Ituri, quatre villages de la chefferie de Baïma Nord, dans les territoires de Djougou, se sont vidés de leurs habitants. À la base, l'occupation de ces entités lacustres par des miliciens de la Codeco depuis quelques semaines. Il s'agit des cafés Mbogi, Soba et Loulou dans le groupement Losandrema. Selon le chef de cette entité qui le rapporte ce samedi, ces rebelles commettent des actes de sabotage contre certaines infrastructures, mais aussi des actes inhumains contre quelques rares habitants qui y sont restés. La société civile locale appelle l'armée à intervenir pour chasser ces rebelles en vue de permettre le retour de la population. Marcel Kizabiamou.
De nombreux assaillants de la Codeco ont envahi ces villages lacustres au bord du lac Albert vendredi. Selon des sources locales, leur objectif est de renforcer leurs effectifs dans ces quatre villages qu'ils occupent depuis bientôt des mois. Conséquence, une grande partie de la population de ces entités a fui vers d'autres localités au bord du lac Albert, notamment Nyamamba, Djo ou il y a une présence de militaires FARDC. Cette autorité coutumière fustige ce qu'elle qualifie d'acte de sabotage perpétré par ces assaillants qui ont enlevé des portes, fenêtres, étoiles de maisons et même de l'hôpital de la localité voisine de Nyamamba. Des biens de pêcheurs, notamment du poisson et des pirogues, ont été pillés. Elle plaide pour la restauration de l'autorité de l'État dans les territoires de Djougou pour permettre le retour des déplacés qui vivent dans des conditions précaires dans l'air le lieu des réfuges. L'armée ne s'est pas encore prononcée pour le moment. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans les territoires de Beni, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, sort de son silence après l'incident meurtrier de mercredi dernier et a mis en cause ses éco-gardes face à la population du quartier Kongo-Yassika en commune rurale de Kassindi. Pour cette structure de protection des aires protégées, la population est appelée à l'apaisement et au dialogue. Marc Marofimbo pour des précisions.
Dans son communiqué de presse publié quelques heures après cet incident, l'ICCN précise que ses éco-gardes se sont heurtés à une foule d'envahisseurs porteurs d'armes blanches alors que ses patrouilles étaient en patrouille de routine sur l'axe Vimba au Kassindi Lubiria. C'est dans la périphérie du quartier Kongo-Yassika de la commune rurale de Kassindi. En situation de légitime défense donc pour ce communiqué, deux personnes ont malheureusement été touchées, dont l'une a succombé à ses blessures alors que l'autre poursuit des soins dans une structure sanitaire locale. Ainsi, l'ICCN condamne les attaques récurrentes sur son personnel dans cette zone Douane et déplore les tentatives de manipulation de la population. Il déplore également les dommages causés à la suite de cet incident qui a coûté la vie à une personne, en invitant la justice à faire toute la lumière sur cet événement afin que les auteurs répondent de leurs actes. Signalons qu'au lendemain de cet incident, la population s'est encore soulevée contre l'ICSN jusqu'à incendier son poste de contrôle situé à l'entrée du parc national de Virunga à Kasindi. Pendant ce temps, les autorités qui disent suivre de près cette situation appellent la population à l'apaisement et au dialogue. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa. L'Assemblée nationale s'est dit déterminée à travailler en étroite collaboration avec la société civile et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour assurer la promotion et la protection des droits humains en RDC. À travers sa commission permanente des droits de l'homme, elle a répertorié des lois prioritaires à examiner au cours de cette session, dont celle de Moïse Nyarugabo sur le droit d'accès à l'information, mais aussi celle portant abolition de la peine de mort. Pour le président de cette commission, une feuille de route est en cours d'élaboration pour permettre au Parlement de s'occuper non seulement des droits civils et politiques, mais aussi des droits socio-économiques et culturels de la population. Simon-Pierre Yanagnou est au micro de Michel Kifindangoy.
L'ambition de notre Parlement, c'est de dire nous voulons avoir cette oreille ouverte par rapport à ceux qui sont les activistes de terrain. Eux, ils vont nous aider à cibler les priorités, notamment par rapport aux lois, mais aussi à cibler les stratégie pour que les lois qui ont été votées puissent réellement être appliquées. Nous parlons notamment des contrôles dans les prisons, les mécanismes de prévention contre la torture. Nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons faire un suivi par rapport au budget qui va venir. Avoir un regard des droits de l'homme, parce qu'il n'y a pas que les droits politiques et civils, il y a aussi les droits économiques, sociaux. Pourquoi le Parlement a créé cette nouvelle commission? C'est justement parce que nous pensons qu'il est temps que les droits de l'homme deviennent une priorité, et cette priorité doit être une priorité commune. Dans la feuille de route qui va sortir de cet atelier, c'est justement pour que la commission s'occupe des questions sur base des recommandations que les acteurs de la société civile donnent au Parlement, qui est la représentation nationale.
Autre nouvelle, poursuite dans les territoires de Tiela au Congo central de la distribution de fournitures scolaires et des bancs pupitres dans plusieurs écoles. Cette dotation aide la fondation Crispin Mbadou, œuvrant dans les territoires de Tiela. Selon Crispin Mbadou, présidente de cette fondation, l'intérêt de son geste est de permettre aux parents d'envoyer les enfants à l'école à l'heure de la gratuité de l'enseignement. Le point avec Nana Plurichimambou.
C'est dans cette ambiance bon enfant que les élèves de près d'une cinquantaine d'écoles disséminées dans les 8 secteurs du territoire de Tchela manifestent leur joie à l'issue de la distribution des sacs à dos, des cahiers et des stylos par la fondation Crispin Mbadou. Avant cette dotation, bon nombre d'entre eux amenaient des cahiers dans des sachets en lieu et place des sacs. Et même les cahiers et les stylos n'étaient pas à la portée de tous ces élèves qui utilisaient les réemplois. Selon le président de cette fondation, cette donation à cette ère de la gratuité vient coincer les parents à ne plus trouver des excuses pour envoyer les enfants, filles et garçons à l'école. Crispin Mbadou Panzou.
Donc nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent retourner à l'école ou bien commencer l'école, mais les parents n'ont pas de moyens pour se procurer de matériel scolaire. Pour cette année, nous avons ciblé 20 000 enfants avec les slogans « Enfants, filles et garçons, tous à l'école ».
En dehors de ces kits scolaires, la Fondation Crispin Mbadou a aussi disponibilisé 1000 bons pupitres pour une cinquantaine d'écoles du territoire de Tchela. L'objectif est de répondre à l'engorgement des salles de classe, un effet positif de la gratuité de l'enseignement au niveau du primaire. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Littérature congolaise, le diplomate Tibassou Mfouadi, en poste en Égypte et auteur de plusieurs livres, a officiellement présenté au public ce samedi à Kinshasa 4 de ses publications à la fois. Il s'agit des livres « Oui, le Congo, terre d'avenir, est menacé » et « Le calvaire d'un diplomate congolais Zaïre » dans lesquels Tibassou Mfouadi peint certaines réalités de la RDC comme la mauvaise gouvernance et l'absence du développement, mais aussi les livres « Traditions et coutumes Balouba » et les proverbes Balouba, ouvrages dans lesquels l'auteur partage quelques pans de la culture Balouba. Tibassou Mfouadi a aussi annoncé pour très bientôt la publication de 2 autres de ses nouveaux livres.
Actualité internationale.
En international, l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, avait lancé un mot d'ordre de grève. Elle réclame notamment la revalorisation des primes ou encore la formation continue des contrôleurs. Cela concerne 17 pays membres sur le continent. Une grève sauvage, selon la direction de la SECNA, basée à Dakar au Sénégal. Des tractations étaient en cours vendredi soir pour tenter de trouver une issue à la crise.
L'invité.
Rôle du pharmacien congolais contre la criminalité pharmaceutique. Thème au centre du débat ce 24 septembre dans la salle Concordia de l'archevêché de Bukavu. Activité organisée par les pharmaciens du Sud Kivu à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des pharmaciens ce 25 septembre. En attendant que les autorités sanitaires prennent des décisions pour contrecarrer cette criminalité pharmaceutique, les pharmaciens de leur côté développent des mécanismes pour cette lutte, notamment à travers cette équipe mobile chargée des investigations. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal le pharmacien inspecteur provincial du Sud Kivu, chancelier Chirimwami. Il s'entretient ici à ses propos avec Rachel Kessembango. Suivez.
Monsieur chancelier Chirimwami, bonjour.
Bonjour madame le journaliste.
Journée internationale de l'ordre des pharmaciens, c'est qui un pharmacien et quel est son rôle dans le domaine médical?
En fait, lorsqu'on parle d'un pharmacien, on voit un cadre qui a passé pratiquement 6 ans sur les bancs universitaires et qui a obtenu son diplôme ou son grade de pharmacien. Et c'est sanctionné par la prestation des serments des Galiens. Vous obtenez maintenant les certificats de l'art de guérir. Là, on s'appelle maintenant pharmacien. Et donc, un pharmacien, tout d'abord, il est appelé à dispenser les médicaments. Ça veut dire que dès lors qu'on parle des médicaments, on voit l'expert dans les domaines, on voit la personne attitrée, la personne, tous les atouts, toutes les compétences possibles par rapport aux médicaments. Le pharmacien est appelé à travailler dans des usines pharmaceutiques, mais aussi lorsqu'on voit le pharmacien, c'est quelqu'un qui est appelé à travailler dans des hôpitaux, dans des formations sanitaires. Il est à la portée, il est au travail, au service de la communauté, dans la dispensation de médicaments auprès des patients.
Que vous interpelle le thème 2022, santé de la femme, actualité 2022, accompagnement par le pharmacien. Comment le pharmacien accompagne-t-il la femme pour son bien-être?
Il faut dire que les pharmaciens jouent un rôle primordial et qui reste indispensable par rapport au bien-être de la femme. Du moment où, lui en tant que pharmacien de l'hôpital, c'est facilement analyser la qualité de l'ordonnance, si elle est rationnelle ou pas. Elle indique facilement à la femme, voilà, la médication que vous êtes censé prendre. Si le produit peut avoir des effets délétères ou tératogènes sur les fœtus, par exemple, ou une femme enceinte, eh bien, les pharmaciens facilement peuvent vous dire, voilà, madame, attention, il y a un danger, il y a une alerte. Donc, il a pas mal de conseils assez thérapeutiques, n'est-ce pas, à fournir à la communauté féminine. C'est une façon aussi de pouvoir sauvegarder, n'est-ce pas, les jarres à tous les niveaux, hein.
Pour la célébration de cette année, les pharmaciens du Sud Kivu ont organisé une conférence sur le rôle du pharmacien congolais dans la criminalité pharmaceutique. Qu'est-ce la criminalité pharmaceutique et que faites-vous pour combattre cela?
Les piliers phares pour la sauvegarde de la santé, c'est entre autres les médicaments. Dès lors que le médicament n'est pas de bonne qualité, il est contrefait, ça veut dire que ça ne réunit pas les préalables d'être appelé médicament, ça devient automatiquement, ça devient d'office un poison. Il s'observe sur toute l'échelle de la République une contrefaçon de grande taille et qui malheureusement passe aux vies et aussi des décideurs. Nous, à notre niveau, en tant que techniciens, dès lors qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous alertons, nous faisons la part des choses, nous transmettons les rapports à qui des droits, à toutes les instances possibles qui sont des décideurs. Malheureusement, madame, il faut que je vous le dise, par moment, nous sommes décis. Mais aussi, nous ne baissons pas les bras. À notre niveau, nous nous mettons, nous y travaillons du jour au lendemain. Nous sommes en train de développer des mécanismes assez efficaces de lutte contre cette criminalité, puisque c'est un facteur qui contribue à la hausse de mortalité et dégonflement des cas du jour au lendemain, ainsi de suite.
Hormis cette criminalité pharmaceutique, il y a d'autres problèmes auxquels les pharmaciens du Sud qui vous font face, notamment les faux médicaments, les médicaments mal conservés, exposés au soleil. Mais il y a aussi cette dénonciation du mouvement citoyen Obapej, qui a dénoncé dernièrement des officines pharmaceutiques transformées en centres hospitaliers et qui enregistrent enregistrerait des morts même. Qu'est-ce que vous faites pour contrer cela?
Effectivement, il y a eu des alertes. La question reste pertinente, là j'admets, elle est assez importante. Du moment où l'opérateur économique qui dispose son officine, son unité de production, s'adonne à des pratiques médico-techniques dans une structure pharmaceutique, pendant que cela est suffisamment prohibé et contre-indiqué par la loi. Ça veut dire que lorsqu'il y a des cas, par exemple, de flagrance, des habits pareils qui s'observent dans une structure pharmaceutique, actuellement la santé a mis à la portée de la communauté un numéro vert d'énonciation qui est le suivant, 45001. Vous appelez gratuitement, vous spécifiez les liens, la personne qui a commis ou la structure dans laquelle se passe ce genre d'opération. Il y a une équipe maintenant mobile qui est chargée de faire des investigations. S'il s'avère que les allégations sont fondées, en tout cas ne vous en faites pas, les concernés subissent des mesures de répression administrative.
Je vous remercie.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Polydor Basunga, coordonnée et supervisée par Noëlla Luzitu. Merci de nous avoir suivis.